Donc le problème, il est profond, il est multiforme. Et par quelle boule prendre?
Par des bons choix politiques, par des bons bulletins de vote dans les urnes, pour mettre les personnes qui sont réellement, se posent réellement les questions. Nous, ça fait des années, des années, des années, des années que les écologistes disent. Écoutons les scientifiques, écoutons toutes les personnes qui crient depuis des années. Donc, mettons en place des personnes qui vont prendre les bons choix pour mettre en place les bonnes choses, mais pas des gens qui disent bah il faut installer de la clim partout, quoi. C'est pas ça la solution.
C'est un débat qui se retrouve dans toutes les sphères du pouvoir et dans toutes les sphères de l'économie. On parlait tout à l'heure du monde agricole. Moi, ça me fait bondir lorsque j'entends une loi qui s'appelle urgence agricole et qui en fait ne répond qu'aux intérêts de la FNSEA. Point barre, c'est tout. Mais réduire le monde agricole aujourd'hui uniquement à un syndicat qui est un syndicat qui fonctionne sur une logique et une pratique productiviste et de profit à outrance, c'est scandaleux. Il y a plein de paysans qui aiment et qui revendiquent d'ailleurs le titre d'être paysans, qui aujourd'hui ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus. Tous les gens qui sont portés, soutenus par la Confédération paysanne, par exemple, pour ne pas la citer, sont des gens qui pratiquent une agriculture du bon sens. C'est simplement encore et toujours du bon sens. Les pratiques agricoles, elles viennent pas de n'importe où. Ce sont nos habitudes, nos ancêtres qui savaient comment utiliser la terre, comment la travailler, comment mettre en place des animaux, et avec aussi un bien-être animal. Et la relation à l'animal était essentiel. On a perdu tout ça. Et aujourd'hui, une minorité de 2, 3, 4% d'agriculteurs fait la loi. Pourquoi? Parce que ben, y a le pouvoir de l'argent derrière. Il y a un moment ou un autre où, effectivement, le système doit être re-questionné dans sa globalité. Et là, les politiques ont un rôle à jouer, clairement.
Oui, moi j'ai un exemple flagrant là, en
Marie-Anne
pleine canicule.
Souchard, après Jean-Noël Roguet sur
Oui.
Radio Prévert.
Oui. Donc un exemple moi flagrant pour le monde agricole. En pleine canicule, un agriculteur arrosait un champ de chaume en pleine canicule. À midi 30, j'ai pris la photo, il était en train d'arroser un champ de chaume. Certainement derrière pour le en mettre son autre culture après en place, quoi. Mais un champ de chaume. Alors déjà, ils ont de l'eau à gogo puisqu'ils passent par-dessus, outre les arrêtés que le préfet peut mettre, puisqu'ils obtiennent des dérogations pour la plupart d'entre eux. Parce que c'est simple, hein, un arrêté émis par le préfet, par exemple le mardi, le jeudi, il y a 80% des agriculteurs qui déposent une dérogation pour obtenir de l'eau. Et c'est réel, en Sarthe. Hein. Donc, un arrêté sécheresse, quand le préfet met un arrêté sécheresse, c'est pour structurer l'utilisation de l'eau, structurer l'utilisation de l'eau. Si on met 80% de dérogation derrière, qui sont les plus grands consommateurs de l'eau, ça sert à rien de faire un arrêté. Enfin, donc du coup, on se mord la queue.
Et on arrive à ces proportions-là de 80% de dérogation, c'est déjà arrivé?
Ah mais c'est courant, mais c'est tout le temps. Allez voir les statistiques. Moi, je suis en train de travailler sur le domaine de l'eau.
Et je précise aux auditrices, aux auditeurs, que vous étiez exploitante agricole.
Oui, non irrigante, bien sûr.
Pardon, je vous ai coupé.
Non, mais ce champ, c'est non loin du bassin de l'Argance. Qui est à sec, enfin, l'Argance qui ne coule plus. Donc du coup, on engendre. Donc tout à l'heure, Jean-Noël évoquait qu'il y avait moins d'eau dans les cours d'eau. On empêche donc à ce que l'eau continue de couler. Mais après, derrière, c'est l'eau, on en manque pour les centrales nucléaires, mais on va en manquer à nos robinets. Et les gens vont réagir, ça sera une autre catastrophe. Les gens vont réagir quand il n'y aura plus d'eau à nos robinets. Mais anticipons quoi. Anticipons cette utilisation de l'eau bah, qui va devenir un bien équivalent à l'or.
Jean-Noël Roguet.
Et si on va jusqu'au bout de la logique, où est-ce qu'elle est l'urgence agricole pour la FNSEA? elle est de se dépêcher maintenant, tout de suite, de pouvoir créer des méga-bassines qui vont pouvoir permettre de continuer d'irriguer et de ne surtout pas se remettre en question par rapport à ces pratiques. C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'urgence pour eux, c'est de s'accaparer une eau qui représente à peu près 60% du volume global des eaux qui sont captées et qui, bah derrière, va se perdre. Ce qu'il y a de... Alors, quand on parle de bon sens, l'eau, elle est présente sur Terre dans des nappes phréatiques, à l'abri du soleil. Ah, on ne la voit pas, mais elle est là. Elle est là. Alors, longtemps, on a trop pompé là-dedans, et du coup, bah, on se retrouve avec des nappes phréatiques qui sont à sec. Alors du coup, bah, la grande idée de la FNSEA, c'est on va créer des méga-bassines. Comme ça, on va voir ce qui nous reste comme eau. Mais créer des méga-bassines avec la canicule qu'on a, c'est favoriser l'évaporation. C'est-à-dire que bah, on crée un truc qui, au bout du compte, n'a strictement aucun effet. Ou en tout cas, on va perdre de l'eau, on va la dilapider, on va la gaspiller pour pas grand-chose. Donc il y a un moment ou un autre où il faut se poser des questions sur la pratique agricole en tant que telle. Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de continuer d'alimenter des animaux avec du maïs ensilé et avec des quantités d'eau phénoménales utilisées pour permettre à ce maïs de pousser? Est-ce qu'il ne va pas falloir repenser les modes d'alimentaire de nos élevages? Voilà, c'est du bon sens.
Et on sait que ce maïs qui est produit n'est pas utilisé... les cultures qui sont irriguées ne sont pas utilisées que à l'alimentation de nos animaux, mais sont bons aussi faire de l'énergie, faire de carburant, enfin bref. Mais je rebondis, hein, Jean-Noël, quand on prend l'eau pour les mettre dans les méga-bassines, donc les gens nous disent oui, mais on prend l'eau l'hiver. Alors l'hiver, oui, l'eau, elle s'accumule. Déjà, d'une, elle s'infiltre pas dans les parcelles parce que on a un mode cultural où on tasse sans arrêt le terrain avec les gros engins qui passent et donc on a un sol qui est complètement compacté. Donc l'eau ne s'infiltre pas. S'infiltre beaucoup moins vite qu'elle s'infiltrait autrefois quand moi j'étais agricultrice, par exemple. Et donc, du coup, il faut remettre des terrains qui redeviennent pour eux, remettre en place les zones humides, les zones privilégiées, les zones naturelles humides, permettre à l'eau de s'infiltrer et laisser le temps à l'eau de s'infiltrer, qui s'infiltre et qui va renourrir nos nappes profondes. Et donc, si on la capte, cette flotte, si on la capte, cette eau, pour aller remplir ces méga-bassines, eh bien, elle n'ira pas faire son devoir d'aller réalimenter nos nappes et de pouvoir, après, de permettre nos forages de fonctionner pour pouvoir alimenter les réseaux d'eau. Ça paraît simple quand je l'explique, mais c'est que du bon sens. Mais les gens, il faut qu'ils comprennent ça, quoi. Il n'y a pas trop d'eau l'hiver. Il y a trop d'eau l'hiver parce que les sols sont compactés, qui n'arrivent plus à absorber l'eau. Et à faire des éponges. Il n'y a plus d'éponges. Une zone humide, une prairie, c'est une éponge. Et une éponge, ça se gonfle, ça prend l'eau et ça prend tranquillement le temps de l'infiltrer dans le sol. On ne laisse plus ce mouvement se faire, ce simple mouvement se faire. Et donc, il faut reprendre ça pour pouvoir avoir de l'eau, continuer à avoir de l'eau, parce qu'un jour, ben, chez nous, ça va être le Sahara, le Sahara, enfin la sécheresse. Et donc du coup, moi je veux pas qu'on manque d'eau à nos robinets, quoi. Enfin c'est le béaba. Qui aura les moyens d'aller chercher de l'eau, d'acheter de l'eau?
Et comme je le disais, vous ne vous exprimez pas ici en tant qu'élu, mais accessoirement vous êtes élu l'une à Bazouges-Créé-sur-Loire et l'autre à La Flèche. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet arrêté qui a été pris, et là je vais oublier le territoire, sur lequel il y a des élus, une communauté de communes, ils ont arrêté de délivrer, toutes les communes ont arrêté de délivrer des permis de construire. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, bah oui, on manque d'eau, c'est déjà arrivé que sur le territoire, bah, on distribue des bouteilles d'eau, et il y a des élus qui disent, mais comment voulez-vous que j'accepte que des familles s'installent alors qu'on manque d'eau? Et si ces gens, après, se retournent contre moi en disant, bah, monsieur le maire, j'ai pas d'eau pour que ma famille puisse boire de l'eau, bah, comment pourrais-je réagir? Et là, ils ont tenu, et ça a fait jurisprudence, la justice a dit, ok, bah, ils ont raison, l'argumentaire tient la route. Donc, vous imaginez qu'on soit dans ce scénario où même des élus, vos pairs, disent, on peut pas, l'eau, C'est la vie, dit-on, et justement, ouais, c'est...
Eh bien, moi, il faut les féliciter, ces élus, c'est bravo, bravo à eux, il faut les mettre en avant, et j'espère qu'ils vont faire des petits, qu'il y en a d'autres qui vont faire la même chose qu'eux, quoi. On a le système chez nous des stations d'épuration qui nous donnent des capacités à mettre en place des maisons à construire, et donc, du coup, toute collectivité le fait très souvent, la capacité, elle diminue, qu'est-ce qu'on fait? On agrandit la station, on refait la station pour qu'elle soit plus moderne et on remet encore d'autres habitations. Donc, restons humbles. C'est peut-être la grande question de demain, c'est comment être humble.
Mmh. Ah oui, l'humilité, c'est un mot qu'il faut effectivement mettre en pratique maintenant. Ça reste juste un joli mot.
Et je veux revenir... On pourra trouver des solutions qu'en dialoguant ensemble. Alors moi, j'ai la chance d'avoir d'être dans une commune où on arrive quand même, malgré tout, à communiquer ensemble. J'espère que dans toutes les collectivités, on arrivera à rentrer et à être autour d'une table et à trouver des solutions et à construire quelque chose, même si ce n'est pas forcément facile, quoi.
C'est pas dans l'air du temps, en tout cas.
Mais pas plus quoi, mais ailleurs, si nous, ailleurs, dans les autres collectivités, on peut aller dans ce sens, eh bien, faisons-le, quoi. Parce qu'il est temps aujourd'hui de prendre des décisions, des bonnes décisions.
Alors, la communauté de communes à laquelle je faisais allusion, c'est une communauté de communes du Var, puisque je suis en train de rechercher cet article-là. Alors, il parle du maire de Montauroux, dans le Var. Donc, c'est la communauté de communes du pays de Fayence, Fayence.
Eh voilà. Bien, je crois qu'il faut faire un quart et puis mettre toute l'équipe du RN fléchois et qu'ils aillent visiter cette collectivité.
Au-delà de ce que vous venez de dire là, on se rend compte que c'est quelque chose d'éminemment important pour qu'on prenne le temps sur Radio Prévert de... Vous invitez, à juste titre, hein, vous étiez venu il y a quelques semaines et je suis sûr qu'au moment où vous recevez Marilyn et votre binôme qui était là avec nous dans ce studio, on n'imaginait pas une seule seconde qu'on serait confronté à ce qui est arrivé le 15 juillet dernier. Et vous me disiez qu'une des articulations de ce groupe... Que vous venez de créer, le groupe local SOS Les Écologistes, Sud-Ouest Sarthe, ce serait de passer par beaucoup de sensibilisation.
Oui.
Et comment faire maintenant, une fois qu'on a posé, là, on n'a pas fait dans le dramatique, mais bon, c'est dans l'ordre des choses, tel que les choses se sont déroulées sous nos yeux. On était spectateurs, il y en a qui étaient plus actifs, ils ont pris la tronçonneuse comme Marilyn, mais voilà. Les choses sont là, clairement énoncées, on s'en rend compte, ce n'est pas la télévision, mais c'est la réalité, quoi. Et maintenant, on fait quoi de tout ça ?
Mais nous, dans l'équipe, je pense qu'on va essayer de créer des animations, des débats, des lieux de rencontre, des lieux de rencontre pour travailler avec la population, avec les gens. Il n'y a que... en faisant de la sensibilisation auprès du public, du large public, qu'on pourra expliquer et que les gens prennent conscience que des problématiques qui sont simples, qui sont après derrière des mettre quand on construit, quand on isole, quand on met des volets, quand on met un arbre, quand on plante un arbre, quand on détruit une pelouse, savoir la conséquence que ça a, parce que chaque petit geste compte. Et donc du coup, c'est à force de sensibiliser. Et nous, le groupe SOS ici en Sud-Sarthe, c'est bien pour ça qu'on s'est constitué, il faut ne pas hésiter à venir nous rencontrer. On est des gens de dialogue, des gens qui aimons construire, qui aimons se projeter, qui aimons donner nos informations, qui aimons transmettre. Et donc, du coup, on n'a pas toute la science. Mais la richesse, c'est la richesse de chacun qui fait qu'on peut arriver ensemble à faire quelque chose. Et donc, il faut absolument Quand vous allez voir toutes ces affiches qui vont se mettre, notamment on va faire une réunion sur l'eau le 26 septembre à Cromières, venez discuter sur cette problématique de l'eau. C'est l'occasion de venir et de dialoguer, et pas de dialoguer dans la haine, de dialoguer dans l'irritation, dans la colère, mais de dialoguer pour ensemble trouver des solutions. Moi, je suis fatiguée d'être dans mes communications que je peux avoir, et notamment moi, sur ma page Facebook, je suis je lance des discussions et je suis agressée. On va même dire même plus fort que ça encore, mais voilà. Alors que ces moyens de communication, il faut les utiliser pour construire quelque chose. Et c'est pas en laissant ces mots violents qu'on construit quelque chose. C'est pas dans l'agression qu'on construit quelque chose.
Puis on n'est pas tout seul, hein. Il n'y a pas que les partis politiques, que les écologistes qui travaillent sur les questions d'environnement. Il y a des associations qui font un boulot fou et qui peuvent facilement nous relayer en termes de sensibilisation ou même nous devancer en termes de sensibilisation. Je pense par exemple à Food Nature ou au CPIE. Il y a des balades qui peuvent être organisées dans les marais de Cré pour comprendre comment ça marche. Une zone humide. Enfin, il y a la LPO. Il y a France Nature Environnement. Enfin voilà, il y a plein d'associations qui, au quotidien, sont prêts à accueillir des gens, à les amener sur le terrain pour voir des choses. On peut aller discuter aussi, je pensais aux apiculteurs qui font un travail pédagogique phénoménal avec les enfants. Et lorsque on assiste un peu à la vie d'une ruche, après ça, on comprend pourquoi il faut éviter que les néonicotinoïdes reviennent au niveau des pratiques agricoles, parce que c'est la vie. L'abeille, c'est notre vie à nous aussi. Et tous ces liens-là, les assos, elles le font. Nous, on est là juste simplement pour
animer,
transmettre un relais, des infos, aider à sensibiliser. Mais il y a des gens qui sont encore plus forts que nous sur chacun de ces domaines et qui sont capables d'expliquer au quotidien ce que la nature est capable de créer de beau et ce que l'homme est capable de détruire. Par contre, lui, très rapidement. Ce sont ces équilibres-là, ces écosystèmes qui font la beauté de notre Terre et qui font que nous, hommes, on a la possibilité, à notre place, de pouvoir y vivre. Mais il faut rester à notre place, simplement, et laisser aussi au végétal et à l'animal sa place, parce que sans lui, on n'existera plus.
Nous sommes qu'un maillon sur Terre.
Et ça, c'est important de le rappeler, parce que l'anthropo, je sais pas comment on dit, morphisme, c'est ça aussi qui fait qu'on perd ce bon sens dont parlait Jean-Noël Roguet. On se croit le centre de tout.
Se sentir supérieur à la nature, le début de la fin. C'est ça. On va droit dans le mur si on continue comme ça. Ça, c'est méchant de le dire, mais c'est la réalité. Et donc, du coup, se sentir au-dessus de tout être animal, de tout être vivant ou de la nature, c'est le début. Alors, les auditeurs vont encore sourire parce que je vais encore dire le mot. Si on respecte la nature et l'environnement, on pourrait s'en sortir. Mais tout prétentieux, toute personne qui se sent au-dessus et plus fort que ça, c'est tout bonnement, tout bonnement déjà le début de mauvaise conscience, de mauvais gestes, de mauvais...